Donc, pensez en rapport avec le premier évangile cité tout à l'heure, l'évangile selon Matthieu. Nous lisons au premier chapitre, évangile selon Matthieu, premier chapitre, verset 21. Marie enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous ». Au milieu de l'évangile, nous relisons le verset présenté tout à l'heure, au chapitre 18e, au verset 18. « En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et puis les derniers versets de l'Évangile, au chapitre 28e, au verset 16. Et les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Les frères conducteurs du siècle passé qui ont dit de l'évangile selon Matthieu qu'il était l'évangile de la présence de Dieu sur la terre ont exprimé une profonde réalité. En effet, il vaut la peine de lire cet évangile dans la pensée de découvrir la présence de Dieu sur la terre, bien entendu dans la personne de Jésus lui-même. La présence de Dieu sur la terre et ce que nous avons lu sont simplement un passage au début de l'évangile, un passage au milieu de l'évangile et un passage à la fin de l'évangile. Mais il y a naturellement bien d'autres passages qui mettent en évidence cette présence de Dieu sur la terre. Nous avons lu un premier passage au premier chapitre. Une prophétie est rappelée, celle d'Ésaïe. « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous. » Il y a trois titres de gloire de notre Seigneur dans ce chapitre premier. Tout d'abord, au verset 16, il est parlé de Jacob qui engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Voilà le premier titre de gloire de notre Seigneur d'après cette portion de l'Évangile selon Matthieu, le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, celui qui a été annoncé par les prophètes et les psalmistes aussi de l'Ancien Testament qui devait venir sur cette terre. Le Christ qui tout d'abord devrait souffrir et mourir, puis le Christ qui allait régner sur la terre et qui régnera en effet bientôt sur la terre, sur les œuvres de ses mains. Les psaumes messianiques qui nous ont occupés ces dernières années, durant le mois d'août, les psaumes messianiques sont précisément ces psaumes qui traite de la personne du Seigneur, le Christ. Les uns sont des psaumes annonçant les souffrances et la mort et l'humiliation de notre Seigneur, les autres annonçant sa gloire et même sa gloire universelle. Le Christ, c'est le premier titre de gloire. Le deuxième, le nom de Jésus, tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Le nom de Jésus, Jéhovah Sauveur, donc nous indique l'œuvre que le Seigneur allait accomplir, l'œuvre de notre salut éternel, Jésus. Jésus, Jéhovah, Sauveur, celui qui sauverait le peuple de tous ses péchés, qui sauverait tout homme venant à lui par le chemin de la repentance, de la confession. Alors, quiconque vient à lui, vient à Jésus, trouve en lui le Sauveur parfait dont toute âme a besoin. Ce soir encore, un tel nom est proclamé. Ce soir encore, dans cette salle, le nom de Jésus est proclamé, c'est celui qui sauve, le seul sauveur que nous ayons, un sauveur parfait pour l'éternité, à nous de le recevoir, don de la grâce de Dieu, à nous de le recevoir par la foi. Quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé, est-il écrit quelque part. Et puis alors, le troisième titre de gloire de notre Seigneur dans ce premier chapitre, c'est Emmanuel. Alors c'est le nom qui indique sa présence. « Voici la Vierge sera enceinte, dit le prophète Ésaïe, et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. » Ce qui est interprété est « Dieu avec nous ». Le Seigneur est donc celui qui sauve, il est celui qui rassemble, comme on vient de l'entendre. Ce rassemblement des enfants de Dieu, présenté sous différentes figures dans le Nouveau Testament, bien entendu. Emmanuel est le troisième titre de gloire de notre Seigneur. Ce nom implique cette notion de sa présence. Il était là, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Il était là au milieu de son peuple, mais son peuple l'a rejeté. Son peuple ne l'a pas voulu. Il n'a rien voulu de celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, nous avons tous les enseignements des chapitres suivants pour arriver au chapitre 13, le chapitre des paraboles du royaume des cieux. Et on vient de l'entendre au chapitre 16e, pour la première fois, il nous a parlé de l'assemblée. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et au chapitre 18e, nous avons alors la constitution même de cette assemblée en une localité donnée. Nous avons la pensée de l'assemblée locale. Il y a une assemblée qui se réunit au nom du Seigneur au Bru. Il y en a une autre au Chambon. Il y a une autre au Rioux. Une autre à Saint-Agrève. Ce sont là quatre assemblées locales. Et à ces assemblées, une telle promesse est faite, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous avons parlé du chapitre 13. Il est remarquable de voir comment commence ce chapitre 13e. Le Seigneur sort d'une maison. En fait, c'est la maison d'Israël. Il quitte cette maison. N'a plus rien à faire avec cette maison. Cette maison l'a rejetée. Il était pourtant Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de son peuple, Jésus qui allait délivrer le peuple de ses péchés. On n'a pas reçu, le Seigneur est vu comme sortant d'une maison et puis s'asseyant au bord de la mer. La mer, ce symbole constant que nous avons dans les écrits prophétiques, en particulier des nations et les nations dans leur agitation. Le Seigneur quitte son peuple terrestre pour se tourner vers les nations. Et alors, des nations, et c'est ce que veut dire ce mot « église »,« ecclésia », »,« l'église », alors, d'entre les nations, un peuple nouveau, qui n'a plus rien à faire avec un peuple terrestre, un peuple céleste, est tiré par la grâce de Dieu. De toutes les nations sort un peuple nouveau, c'est l'Assemblée. Et alors au chapitre 18e, nous avons l'expression locale de ce qu'est l'Assemblée. C'est pas une petite chose, chers amis, qu'une Assemblée locale. On parle volontiers de l'Assemblée universelle. C'est sûr que c'est une pensée, la parole de Dieu, grandiose, glorieuse. L'Assemblée universelle, l'Assemblée de tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, comme nous avons vu hier soir. Mais nous avons besoin de penser à l'Assemblée à laquelle nous nous rattachons. L'Assemblée locale, c'est une entité en soi, définie par le Seigneur Jésus lui-même. Et ce qui caractérise cette assemblée locale, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. On ne vient pas pour un homme, on ne vient pas pour entendre une doctrine particulière ou des exhortations spéciales, on vient parce que le Seigneur nous demande d'être là. Il est là le premier et il nous demande de venir là où il est. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Autour de lui, c'est ce qui fait toute la valeur de l'assemblée, toute la valeur d'un rassemblement, selon les principes scripturaires, bien entendu, et de façon toute particulière, selon ce qui a été enseigné à l'apôtre Paul. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est à noter ce qui est dit dans les versets précédents. Au verset 18, il est parlé de cette autorité qui est conférée à une assemblée. Notre frère M. Louis Chaudier aimait à redire cette pensée concernant l'assemblée locale. Vous seriez, disait-il, deux ou trois. Simplement deux ou trois réunis au nom du Seigneur, une autorité vous est conférée par le Seigneur lui-même, selon qu'elle est exprimée par ces mots. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Cela nous montre toute l'importance d'une réunion dite d'administration, où des décisions sont prises. C'est pas peu de chose, chers amis, qu'une réunion d'administration. Et ce n'est pas peu de chose que de prendre des décisions en tant qu'assemblée sous le regard du Seigneur. Puis au verset 19, nous avons en fait l'énoncé de la réunion de prière. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. » Remarquons comment l'Esprit de Dieu s'exprime. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque. » Il n'est pas écrit « si deux ou trois se sont mis d'accord ». On ne vient pas à la réunion de prière en se disant entre frères, disant à un frère « vous êtes d'accord, on va prier pour ceci, on va prier pour cela ». On ne tient pas un langage semblable. La parole de Dieu ne dit pas « s'ils se sont mis d'accord ». Parce que l'accord est créé par l'Esprit de Dieu lui-même. Et ils sont d'accord parce qu'ils sont mus par l'Esprit de Dieu lui-même. Ils sont d'accord. Il n'est pas du tout nécessaire de se mettre d'accord. La parole de Dieu ne le dit pas. Elle ne dit pas qu'ils se sont mis d'accord. Ils sont d'accord parce que l'accord est créé, pas par nous-mêmes, il est créé par l'Esprit de Dieu. Nous connaissons tous probablement la structure de ce verset capital. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il a été écrit à cet égard des pensées du reste remarquables. Car là, lieu divin, où deux ou trois témoignages divins sont assemblés, communion divine, en mon nom, autorité divine, je, personne divine, suis là, présence divine, au milieu d'eux, centre divin. La structure est merveilleuse de ce verset. Cette pensée, cette plénitude, cette pensée, toutes de caractère divin, sont mentionnées en rapport avec un tel rassemblement. lieu divin, témoignage divin, communion divine, etc. Centre divin. Tout est divin selon le principe du rassemblement des enfants de Dieu. Combien, du point de vue pratique, nous avons besoin d'être mis en garde que rien d'humain, rien de charnel ne vienne se glisser sur un tel terrain, le terrain du rassemblement des enfants de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, réunis au nom du Seigneur, réunis autour de lui. Et nous arrivons au dernier passage, la fin de l'évangile, où encore cette présence de Dieu est mentionnée, et d'une façon si remarquable. Tout d'abord, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Nos anciens frères ont insisté bien souvent sur la force de ce verbe « ordonner ». Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples, il leur a pas seulement dit, il leur a pas seulement donné un conseil, il les a pas seulement invités, je vous invite à être sur la montagne en Galilée. C'est un ordre formel que le Seigneur a donné à ses disciples. Sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Ce soir encore, nous entendons un frère conducteur de Suisse qui a été du reste sur le plateau, Samuel Prodon, insistant sur un tel passage, sur la force d'un tel verbe, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. De la même manière que Dieu ordonne à tous les hommes, Dieu n'invite pas seulement, il n'appelle pas seulement, il ordonne. À tous les hommes qu'en tout lieu, ils se repentent. Et s'ils ne veulent pas se repentir, ils auront affaire à la même personne de Jésus, mais alors, ce juge qui a été établi par Dieu pour juger en justice la terre habitée tout entière. Dieu ordonne à tous les hommes qu'ils se repentent. Le Seigneur Jésus a donné un ordre à ses disciples qu'ils se trouvent là, présents sur la montagne de Galilée. Quelle force a ce verbe, chers amis, quant au rassemblement de nous-mêmes, nous ne sommes pas libres de venir aux réunions ou pas, suivant que ça nous plaît, ça nous plaît pas, il fait beau temps, il fait mauvais temps, nous avons des visites à la maison, on ne peut pas aller à la réunion, toutes sortes de prétextes qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Il y en a qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu les connaît, il les connaît parfaitement. Mais combien de fois nous estimons que ce soir, nous ne pouvons pas tant bien aller à la réunion, ça ne s'arrange pas très bien. N'oublions jamais que le Seigneur nous a ordonné de nous trouver là, où il a promis sa présence, où il a établi la mémoire de son nom. Il leur a ordonné de se rendre là. Pour les réunions, dont l'apôtre Paul dit que ce sont les réunions d'assemblée, la réunion de culte, la réunion de prière et la réunion dite d'édification selon 1 Corinthiens 14, où le ministère de la parole se donne libre cours, où l'on reçoit par la parole ce que Dieu a à nous dire. Et alors, le Seigneur se présente, il est ressuscité. Le Seigneur est là, l'ayant vu, lui rendirent hommage, mais quelques-uns doutèrent. Est-ce que cela, chers amis, ne nous attriste pas profondément? Dans ce tout premier rassemblement, autour de Christ ressuscité, il y en a qui ont douté, il y en a qui ont hésité. La majorité des disciples lui ont rendu hommage. Belle image de la réunion de culte, première réunion de culte. Mais la parole doit ajouter qu'il y en a qui ont hésité, qui ont douté. N'avons-nous pas là, dans ce premier rassemblement, comme un germe de l'incrédulité qui allait au cours des siècles envahir l'Église tout entière? Dans le premier rassemblement, il y a eu du doute, il y a eu de l'hésitation. Le Christ ressuscité était pourtant là, personnellement présent. Quelques-uns doutèrent. Ce doute est là comme le germe de l'incrédulité qui allait envahir l'Église tout entière. Alors le Seigneur, dans sa grâce habituelle, s'approche d'eux. Il leur parle. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et il envoie ses disciples. « Allez donc et fait disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Tout d'abord, chers amis, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. L'homme, le Christ Jésus qu'elle a ressuscité, présent en présence de ses disciples, est celui qui, en vertu de son œuvre parfaite, l'œuvre de l'expiation, a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Les disciples pouvaient bien s'en aller. Allez donc, allez donc. Allez, je vous envoie pour une mission bien déterminée. Faites disciples toutes les nations, leur disant de garder les choses que je vous ai enseignées, je vous ai commandées. Allez donc. Les disciples avaient toute raison de partir en partant pour le nom de celui qui avait toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et puis, après leur avoir donné cet ordre de s'en aller pour accomplir le service qui leur était confié, alors la promesse délicieuse, dernière ligne de ce premier évangile, et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Avant de partir, ils entendent cette assurance. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Celui que vous allez servir est celui qui a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. L'ordre est donné et ensuite la douce et délicieuse promesse, je suis toujours avec vous, je vous laisserai jamais, je vous abandonnerai pas, je suis toujours avec vous, voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. On ne saura jamais, chers amis, le nombre de centaines et de milliers de croyants au cours des âges qui ont été réconfortés par cette simple parole, mais combien délicieuse promesse. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de temps en temps, certains jours, mais tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Nous le répétons, ils sont des milliers et des milliers, les croyants qui ont été réconfortés et soutenus par une telle promesse. Il s'agit là de la présence du Seigneur. Comme on l'a vu cet après-midi, le Seigneur est proche, il est près de nous. C'est sa présence près de nous. Ce n'est pas du tout la présence du Seigneur en rapport avec l'assemblée de caractère ecclésiastique, pas du tout. Il s'agit là de la présence du Seigneur près de toi, près de toi, près de toi encore, près de chacun de nous et tous les jours. Et cela jusqu'à la consommation du siècle, de ce présent siècle dans lequel nous sommes appelés à vivre. Eh bien, que le Seigneur nous donne, chers amis, de nous souvenir de ce caractère, peut-être, duquel nous ne parlons pas très souvent, ce caractère du premier évangile, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le peuple terrestre le refuse, Emmanuel. Le peuple d'Israël n'a rien voulu d'Emmanuel. Le Seigneur se tourne alors vers les nations d'où il va extraire, d'où sera issu un autre peuple, le peuple céleste de Dieu, l'assemblée, l'Église, l'assemblée du Dieu vivant. Et enfin, s'il s'agit de nous-mêmes, personnellement, chacun, chaque frère, chaque sœur, dans les diverses circonstances qui sont les leurs, qui sont les nôtres, chers amis, nous avons cette délicieuse promesse. Le Seigneur ne veut pas nous laisser. Il ne veut pas nous abandonner. Il ne veut pas nous abandonner. Voici moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Que nous puissions faire notre une telle promesse, en jouir beaucoup, être relevés peut-être si nous sommes abattus, relevés du milieu de nos circonstances adverses, être relevés, prenons courage, parce que le Seigneur aime à nous rappeler qu'il ne nous laissera jamais, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle.